Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'évangile de ce quatrième dimanche de carême, eh bien, chers frères, est très clair et l'Église l'a manifestement choisi pour nous préparer dès maintenant à la communion pascale. Mais que signifie précisément l'épître que nous venons d'entendre ? Et pourquoi l'Église a-t-elle placé aujourd'hui, en ce dimanche de Létharé, cet extrait de l'épître de saint Paul aux Galates ? D'abord, pour procéder par ordre, pourquoi saint Paul écrit-il aux Galates ? Il a lui-même évangélisé les habitants de cette région d'Asie mineure, la Galatie, il leur a annoncé l'Évangile et ils l'ont reçu avec empressement. Mais maintenant, ces nouveaux chrétiens sont troublés par des prédicateurs judaïsants qui essaient de les persuader, alors que ce sont des anciens païens maintenant devenus chrétiens, qui essayent de les persuader qu'ils ne peuvent pas se convertir au christianisme sans adopter la loi juive avec toutes ses contraintes et toutes ses prescriptions. Et voilà donc l'erreur que saint Paul veut combattre, celle des judaïsants. Il la rencontrera d'ailleurs plusieurs fois sur sa route. Les judaïsants qui estiment que la loi juive est toujours en vigueur, qu'elle doit être intégralement conservée et imposée à tous ceux qui veulent devenir chrétiens. Pour leur répondre, saint Paul utilise un épisode de l'Ancien Testament. Et il ne remonte pas seulement à Moïse, il remonte beaucoup plus haut, jusqu'à Abraham, le grand ancêtre du peuple hébreu, dont la vie est racontée dans le premier livre de la Bible, la Genèse. Pendant très longtemps, Abraham et son épouse, Sarah, avaient attendu en vain la venue d'un enfant. Finalement, mais seulement dans leur vieillesse, ils obtinrent un fils, Isaac, que saint Paul appelle l'enfant de la promesse, non seulement parce que Dieu l'avait promis à Abraham, mais parce que cet enfant lui-même était joint à toutes sortes de promesses faites pour lui et pour sa descendance. Car c'est à travers Isaac qu'Abraham devait devenir le père d'un grand peuple qui bénéficierait de cette autre promesse de Dieu à Abraham, la fameuse terre promise en Israël. Mais ça n'est pas tout et ça n'est pas l'essentiel. Surtout, c'est à travers Isaac qu'Abraham devait devenir l'ancêtre du Messie, celui en qui devaient être bénies toutes les tribus de la terre. Et ici, les promesses de Dieu prennent un deuxième sens beaucoup plus élevé. Abraham doit devenir le père d'un grand peuple, d'abord dans l'Ancien Testament, le peuple hébreu à qui sera donnée la terre promise, mais aussi et surtout dans le Nouveau Testament, et il s'agit ici du peuple chrétien, ouvert à toutes les nations, ce peuple chrétien à qui est déjà préparée la terre promise de l'éternité. Et il est important de préciser ici que cette interprétation, cette explication n'est pas du tout une invention de saint Paul. Cette double promesse, ou plutôt on pourrait dire cette unique promesse qui doit se réaliser à deux niveaux différents, est bien visible dans la Genèse, puisque d'un côté, Dieu promet à Abraham de le faire père d'un grand peuple, mais en même temps et à plusieurs reprises, il lui annonce qu'en sa postérité seront bénis toutes les tribus de la terre. Cela implique logiquement qu'il y a bien une bénédiction liée à un peuple précis, celui qui naîtra d'Isaac, mais que cette bénédiction doit ensuite s'ouvrir, s'épanouir, s'étendre à toutes les nations de la terre, et cela à travers le Messie. Telle était donc la promesse pour Isaac. Mais avant Isaac, Abraham a eu un autre fils, Ismaël, qui n'est pas né de Sarah, mais d'Agar, la servante, et qui serait, dit-on, l'ancêtre des populations arabes. Il y a, vous le savez sans doute, une grande controverse à ce sujet entre les Juifs et les musulmans au sujet de la descendance légitime d'Abraham, car les musulmans ont remodelé ce récit pour raconter les choses à leur manière. Les Juifs, en tout cas, sont très fiers de descendre de Sarah, la femme libre, et non d'Agar, l'esclave. Mais saint Paul renverse totalement la perspective en affirmant qu'il faut lire cet épisode, et notamment cette rivalité entre les deux femmes et les deux fils, il faut lire cet épisode de façon symbolique. Autrement dit, oui, c'est vrai, le peuple juif descend de Sarah, la femme libre. Mais aujourd'hui, dit saint Paul, aujourd'hui qu'est venu le Messie qui apporte la nouvelle alliance, ceux qui veulent s'accrocher à l'ancienne loi doivent être comparés à Agar, tandis que nous sommes, nous autres, chrétiens, comme Isaac, les fils de la promesse. En effet, de même qu'Ismaël se croyait plus légitime parce qu'il était né le premier et qu'il profitait de cette prérogative d'aîné pour mépriser et persécuter Isaac, qui était pourtant l'enfant de la promesse, de même, dit saint Paul, cette situation se renouvelle aujourd'hui. Et enfin, pour trancher le débat qu'il oppose aux judaïsants, saint Paul invoque la conclusion de tout cet épisode. En effet, comment s'est achevée cette rivalité entre Ismaël et Isaac? Par le renvoi d'Agar et de son fils. Chasse l'esclave et son fils, car il ne doit pas hériter avec le fils de la femme libre. Et donc, de même qu'Agar et Ismaël ont été chassés, de même, dit saint Paul, les chrétiens ne doivent pas hésiter à écarter les prescriptions de la loi ancienne. Tel est donc le sens général de cette épître aux Galates. Mais pourquoi donc la Sainte Église a-t-elle choisi ce texte pour ce quatrième dimanche de carême? Eh bien, parce qu'en comparant l'ancienne et la nouvelle alliance, saint Paul souligne un point particulièrement important pour notre préparation aux solennités de Pâques. L'ancienne alliance, dit-il, contracté par Moïse sur le mont Sinaï, n'engendre que des esclaves, c'est ce qu'il nous dit. Cela indique que, bien sûr, elle rétablit un rapport entre Dieu et l'homme. Elle soumet l'homme à Dieu, et c'est déjà quelque chose. Mais elle le soumet davantage à la façon d'un esclave que d'un fils. Elle insiste plus sur la crainte que sur l'amour. Elle est davantage centrée sur des pratiques extérieures, un règlement minutieux à pratiquer, que sur l'esprit. Et précisément parce qu'il lui manque cette qualité spirituelle, elle se rattrape sur la quantité en multipliant les prescriptions. Imaginez un instant, mes frères, que vous deviez confier à une personne qui n'a jamais cuisiné de sa vie la préparation d'un festin. Vous seriez obligé de multiplier à l'infini la liste des recommandations de toutes sortes sur les quantités, les mesures, les durées de cuisson, etc. Il y aurait une liste presque interminable et intolérable que vous donneriez. Voilà la recette à suivre. En revanche, si vous vous adressez à un cuisinier expérimenté, quelques mots pourront suffire parce qu'il a en lui-même l'art, la technique, l'expérience qui lui feront prendre de lui-même les bonnes décisions. Il pourra agir beaucoup plus librement, non pas pour faire n'importe quoi, mais au contraire pour s'adapter spontanément au but à atteindre de façon beaucoup plus souple, beaucoup plus réaliste, beaucoup plus efficace que s'il suivait seulement une recette dictée de l'extérieur. Eh bien, c'est précisément cette liberté que nous apporte notre Seigneur Jésus-Christ. Cette liberté de l'amour de Dieu qui doit nous mouvoir de l'intérieur vers celui que nous aimons, notre Dieu, et qui nous fait spontanément nous adapter à ce qui plaît à Dieu. Et l'Église juge important de le souligner au milieu du carême, parce que le temps du carême est un temps de pénitence, un entraînement, le jeûne, et elle veut éviter que nous perdions de vue le but. Le but, c'est toujours l'amour de Dieu. L'essentiel, le plus important, c'est l'amour de Dieu. Déjà au début du carême, l'Église a insisté, c'était le mercredi décembre, dans son évangile, sur le fait que le carême ne doit pas être un temps de tristesse, mais un temps de joie. Elle y revient aujourd'hui avec cette messe de l'étaré, l'introïde qu'on a entendue, « Réjouissez-vous ». Et pourquoi est-ce que nous devons être dans la joie? Parce que tout simplement, le but du carême, ça n'est pas de faire de nous des esclaves de plus en plus dociles, mais c'est vraiment de faire de nous des fils de Dieu qui pouvons nous réjouir de l'aimer. Alors cette liberté de l'amour de Dieu ne consiste pas à faire n'importe quoi, aucunement, mais elle va nous mettre dans une perspective tout à fait autre que celle de la crainte servile. Il y a deux sortes de craintes. La crainte de l'esclave qui obéit parce qu'il craint les châtiments et la crainte qu'on appelle filiale, celle du fils qui va faire la volonté de son père tout simplement parce qu'il aime son père et non pas parce qu'il craint les châtiments, mais il craint de lui déplaire. Et si la crainte servile n'est pas mauvaise en elle-même, saint Augustin nous dit « La crainte qui perce le cœur des impies peut y préparer l'entrée de la charité. » Elle n'est pas mauvaise, mais une fois qu'elle a laissé la place à la charité, elle, va progressivement l'éliminer pour ne laisser plus que cette crainte filiale centrée sur l'amour de Dieu. Et nous devons, c'est important, pendant le carême, nous mettre dans cette disposition, nous rappeler le plus important, c'est d'aimer Dieu, c'est-à-dire tout simplement de nous rendre compte que Dieu est notre seul vrai bien. Lui seul peut nous combler, lui seul peut nous donner la joie. Et tout ce qui nous détourne de lui est mauvais en tant que cela nous détourne de lui. Et donc nous libérer de tous ces attraits du monde pour mieux nous laisser entraîner vers Dieu et le faire non pas dans cet esprit de crainte de l'enfer ou crainte des châtiments, mais tout simplement parce que nous avons été élevés à cette dignité de fils de Dieu et que nous voulons plaire à notre Père et pouvoir aller jouir de sa compagnie dans l'éternité. Donc essayons en ce quatrième dimanche de carême où l'Église veut un petit peu tempérer la rigueur du carême, de bien nous mettre dans cette disposition pour nous préparer à Pâques. Il ne s'agit pas du tout de nous relâcher dans nos efforts, mais il s'agit de bien les recentrer sur l'essentiel en nous disant « le but c'est d'aimer Dieu, je dois finir ce carême, me retrouver à Pâques » en ayant non pas seulement fait des exploits de jeûne, mais surtout en ayant grandi en charité. Et alors je ne pourrais pas mesurer si j'ai vraiment je ne pourrais pas mesurer cet accroissement, mais si vraiment j'ai fait des efforts pour aimer Dieu, c'est sûr, j'aurai grandi en charité, je l'aimerai davantage, et par le fait même, la vie chrétienne me sera plus facile, parce que je verrai plus clairement que tout ce qui me détourne de Dieu est mauvais, et je me préoccuperai de l'essentiel. Donc demandons à la Sainte Vierge de bien nous mettre dans ses dispositions, profitons de la Sainte Communion pour demander cela à notre Seigneur Jésus-Christ, de mieux l'aimer, mieux voir l'essentiel et d'avoir cet esprit de crainte filiale. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.